Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et vous êtes à l'écoute de Canal M, c'est Sans détour, édition du 17 janvier 22. Oh oh, quelle journée aujourd'hui! Ça va être un véritable test pour le transport adapté et le déneigement, ça c'est sûr. Vu de notre fenêtre, il fait très beau et c'est même assez impressionnant de regarder les bourrasques de neige. Rendu à l'extérieur de la maison, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite de bien passer au travers de la journée. Pour vous aider, nous avons en notre compagnie ce matin M. Rémi Mailloux, qui est directeur général de la ressource pour personnes handicapées d'Abitibi-Témiscamingue et qui va nous parler du Téléthon qui aura lieu plus tard cette semaine. Téléthon qui en sera à sa 25e édition. Un mouvement de solidarité régional particulièrement chaleureux. On va parler également de l'intégration des employés en situation de handicap au groupe Banque TD avec M. Martin Beauregard, qui est partenaire service conseil ressources humaines au groupe de Banque TD. Et finalement, dans le cadre du mois de la sensibilisation au glaucome, on va écouter Mme Carole Desharnais, infirmière au Centre d'information sur le glaucome McGill de l'Hôpital juif de Montréal. Tout ça et notre revue de presse avec Mme Campagna à Sans détour. Bonjour, M. Mailloux. Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Ça va bien, merci. Est-ce qu'il neige autant chez vous que chez nous? Ça doit être pire chez vous parce que en Abitibi,
ben,
quand il neige.
Il fait plus froid qu'il neige. Là,
ah, OK.
Bon. Mais on s'en sort bien, on est fort.
Bon, oui, ça. Oui, vous êtes habitué là-bas, mais ça veut pas dire qu'il faut l'espérer qu'il fasse froid. Mais on va parler surtout de la ressource et de votre Téléthon qui aura lieu le 30 janvier, c'est-à-dire dimanche dans deux semaines.
Exactement.
Et ça, c'est un événement qui fait chaud au cœur parce que à chaque année, on voit toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, là, qui se rassemble autour de ce projet-là et projet qui sert à appuyer la ressource. Alors, d'abord, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que la ressource en Abitibi-Témiscamingue?
Bien, la ressource, c'est un organisme qui ramène à toutes les personnes handicapées en Abitibi-Témiscamingue, tous en handicap, pour aider à qui complète les programmes gouvernementaux ou qui colmatent certains programmes qui ne répondent pas aux besoins des personnes, que ce soit en équipement spécialisé, en voyage, pour avance, pour soins spécialisés quand ils vont à Montréal ou ailleurs, en répit des sous pour que les gens aient du répit, des sous pour leur fourniture médicale. On a établi un fonds de dépannage en Côte d'Isère au fil des années pour malheureusement les gens qui décèdent. Et effectivement, on a on subventionne des camps d'été là, pour que les gens aient un peu de vacances l'été, puis des fois l'hiver.
Ah, ben ça existe. Ça vient pas d'hier, la ressource, je pense. Ça a été fondé il y a près de 30 ans.
Ça va faire 25 ans, cher monsieur, ensuite de la scission avec l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Nous, on voulait vraiment garder l'argent en Abitibi-Témiscamingue, puis on voulait vraiment aider les gens là à dans leur quotidien. C'est-à-dire pas juste dire qu'ils sont beaux puis qu'ils sont fins, mais vraiment leur faciliter, leur donner une qualité de vie. Donc, on a fait ça, on a créé ça il y a 25 ans. On est parti avec 300 88 membres en Irak.
OK, c'est ça, les gens s'inscrivent, juste pour bien comprendre, le concept de membre, c'est que les gens de la région qui vivent en situation d'handicap, qui veulent pouvoir profiter des services de la ressource, ils deviennent membres, un peu comme si c'était une coop.
Oui, ils souscrivent comme pour être membre. Mm-hmm. Puis effectivement, pour obtenir des services, mais aussi, c'est vraiment symbolique, là. Mm-hmm. Le montant, c'est pour dire aux gens que, parce qu'on est vraiment, la population, les entreprises, les industries appuient le mouvement, mm-hmm, et voient au quotidien les bienfaits qu'on accorde là durant toute l'année. D'ailleurs, on a des bons partenaires avec, oui, le réseau de la santé, avec le réseau communautaire. Ça fait ce que ça fait, c'est qu'en Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, on a un réseau social assez tiré, assez, oui, tricoté, serré.
Mm-hmm.
Oui.
Parce que si je vois sur votre site, c'est presque 2000 personnes qui sont membres, qui sont inscrites à vos services.
Oui, oui, tout à fait, parce que c'est ça, les besoins sont là, hein, ils ne deviennent pas membres parce qu'on est,
ouais,
on est des beaux yeux, ils deviennent membres parce que ces gens-là ont des besoins.
Mm-hmm.
Puis au vu des années, ben les ressources, on est avec en partenariat avec le CI3S de notre région, ben on a eu la gestion du programme de technique,
okay,
du programme d'oxygénothérapie. Puis on s'occupe aussi du service d'interprétariat.
Oui, oui, en langue des signes. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est important. Surtout dans je dirais, au cours des deux dernières années, là, c'est comme s'il y avait tout le temps une tempête de neige puis c'était difficile de communiquer. Dans une région où il y a une densité de population n'est pas très, très forte, avec quelques centres importants puis beaucoup de plus petites communautés, c'est important qu'il y ait ce tissu serré, là, puis je dirais, un explique l'autre aussi.
Oui, puis c'est des vases qui deviennent comme communicants aussi.
Oui.
Ça fait qu'avec toute cette panoplie de services qu'on offre, ben les gens, là, ils ont réponse à leurs besoins.
Mm-hmm.
Et puis ça, c'est... En tout cas, on fait ensemble avec notre communauté... On fait de très grandes choses.
Oui, tout à fait. Puis le Téléthon, ça va être sa 25e édition. Donc, vous, oui, faites ça depuis le tout début pour financer vos activités, parce que c'est votre plus importante source de financement. C'est ce qui tourne autour du Téléthon.
Exactement. Puis ce qu'il faut dire à la population, c'est grâce à de précieux partenaires, le Téléthon, oui, il y a des coûts, mais le Téléthon est commandité entièrement par nos partenaires, mm-hmm, majeurs. Ce qui fait que quand on récolte le premier sou du Téléthon, les sous vont en service direct à notre population qui vivent avec des limitations.
Parce que je pense que le Téléthon, ça représente plus que le tiers de votre budget annuel. C'est beaucoup.
Exactement. L'année passée, on a eu un montant record de 672 000 recueillis pour une région d'à peu près 150 000 de population.
Ouais.
Puis avec tout ça, ben ce que ça permet aussi aujourd'hui, c'est qu'on est capable de toucher aux activités, à plus de loisirs et de sportives.
Mm-hmm.
On a là, 2 ans avec un groupe en Abitibi-Ouest, à Palmarol, on a aidé avec d'autres partenaires. Bien sûr, on ne fait jamais les affaires tout seul, mais il y a un club de hockey luge qui s'est fondé.
Okay.
Donc, c'est des projets que avant le Téléthon, vu qu'il connaît des succès phénoménales, ben, nous permet d'aller plus dans l'intégration sociale et loisirs et sportifs des gens, Puis ça, c'est tout à l'honneur de la population de l'Abitibi, de l'Outre-mer et du nord du Québec.
Parce que je pense, d'ailleurs, en parlant de sport, si je ne me trompe pas, parmi les principaux présidents ou supports à votre Téléthon cette année, il y a les Foreurs de Val-d'Or et les Huskies de Rouyn-Noranda.
Tout à fait.
Qui sont deux équipes d'une rivalité, je dirais, mythique en Abitibi. Là. Les matchs Foreurs-Huskies, ça brasse.
C'est que nos deux présidents, Danny et Jean-François, ils ont dit, pour une cause comme la ressource, on va unir on va mettre de côté nos rivalités, mais on va unir nos équipes pour que la région en sorte gagnante. Et c'est tout à leur honneur quand leur discours ils font là. C'est vraiment beau de voir deux rivaux s'associer ensemble et dire « Hey, on va travailler ensemble pour la même cause. »
Exact. Le Téléthon s'est diffusé de 16h à 22h, dimanche le 30 janvier, de 16 à 22h. Ça, c'est diffusé sur Nouveau, je pense.
Nouveau Abitibi Témiscamingue. Puis les gens peuvent y assister via Internet, ils ont juste à aller sur notre site Internet à www.laressource.org, puis ils vont tomber en onde comme un nouveau Abitibi Témiscamingue.
OK, donc finalement, on peut assister au Téléthon où que ce soit. On n'est pas limité régionalement à Abitibi Témiscamingue. Des gens de d'autres parties du Québec ou n'importe où, finalement, qui ont accès à Internet peuvent voir les artistes qui vont se présenter. L'an dernier, avec le confinement, vous avez appris beaucoup sur comment organiser un téléthon dans des mesures, dans le cadre de mesures sanitaires. Puis ça va vous servir cette année parce que c'est pas très différent là.
Non, ça va être du copié-collé. Écoute, on a eu la chance de tomber sur une émission de télévision. On est considéré comme un événement télévisuel, d'où la permission de tenir l'événement.
OK.
C'est sûr que cette année encore, il n'y aura pas de jeu à l'intérieur du théâtre du cuivre, mais à la télévision, on va pouvoir nous voir. Puis, on est vraiment secondé par l'équipe de la santé publique et du théâtre du Grief qui nous permet d'être rigoureux et de suivre les règles et de protéger les gens qui vont travailler au Téléthon.
Exact. Parce que il y a plus qu'un site, je pense, que vous avez à la fois au Théâtre du Cuivre, à Noranda. C'est le centre, je dirais, névralgique du Téléthon, mais il y a aussi des événements un peu partout dans la région où il va y avoir des artistes qui vont se produire. Et on va en entendre un groupe dans deux petites secondes, d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup, M. Mailloux, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça, parce que c'est vraiment un organisme de solidarité dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, puis d'avoir eu un record pour votre Téléthon l'an passé dans les conditions difficiles. On vous en souhaite tout autant cette année.
Bien, on vous remercie. On remercie toute l'équipe du Canal M de nous supporter là-dedans.
Bien, vous êtes super, puis on va tous être en onde, puis suivre ça dimanche le 30 janvier de 16 à 22h, soit sur Nouveau, soit sur votre site web laressource.org. Merci, bonne journée, bonne chance.
Merci beaucoup, au revoir.
On est allé bûcher du bois avec une hache puis une boxe. La poudrerie efface nos pas. Et puis le vent glace nos voix. Ouh, ouh, ouh.
passe le vent et la brume tombe. Le job a retracé nos pas.
Il tient nos âmes entre ses doigts dans la tourmente.
C'était La Tourmente, interprétée par les Gars du Nord. Les Gars du Nord, c'est ce qu'on appelle un power group, selon leur site, un power group acadien, où ils se formaient de Wilfred Leboutillier, Jean-Marc Couture, Danny Boudreau et Maxime Megra. Et les Gars du Nord seront parmi les artistes qui vont participer au Téléthon de la ressource dans 2 semaines. Voilà, puis je pense que La Tourmente, ben c'est facile, on a juste besoin de sortir dehors. Et on va y être dans La Tourmente. Ça me fait plaisir de vous accueillir, M. Martin Beauregard. Vous êtes partenaire conseiller ressources humaines pour le groupe TD. Bonjour, M. Beauregard.
Bien le bonjour, M. Beauregard. C'est drôle,
Vous avez bien raison, surtout que la semaine dernière, j'avais le plaisir d'avoir M. Ronald Beauregard ici au micro de Canal M. Alors, on est en train de faire une série sur les Beauregards impliqués dans le milieu des personnes en situation d'handicap. Dans votre cas, M. Beauregard, c'est à titre de partenaire service conseil ressources humaines chez Groupe TD. Parlez-nous un peu de ce que TD fait de mieux ou de plus ou de différent par rapport aux grandes organisations canadiennes?
Ben, ils font beaucoup de choses. Premièrement, ils m'ont engagé.
OK.
Blague, là, mais, ouais. Mais je suis moi-même une personne en situation de handicap qui me déplace en fauteuil roulant, tout ça. Puis, ça fait 15 ans, ça va faire 15 ans en février que c'est avec eux autres. Puis, ça a été une belle expérience de vie. Puis là, ben, je. Tu sais, la TD en tant que telle, maintenant, ils sont. Ils font plein de choses. Mm-hmm. Cette année, par exemple, on célèbre le 15e anniversaire des laboratoires que TD a conçus.
D'accord.
Pour venir en aide aux personnes, tant aux employés qui ont sont dans une situation de handicap que les clients ou que les candidats. Parce que, tu sais, je veux dire, on est toujours à la recherche de candidats, on n'est vraiment pas ouvert à la situation de personnes avec handicap qui veulent travailler. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, moi, je donne toujours un exemple. À un moment donné, il y a quelques années, je travaillais comme chef d'équipe pour le canal téléphonique.
OK.
Donc, puis à un moment donné, on était dans le Vieux-Montréal, sur la rue Saint-Jacques, et on a déménagé. Puis à un moment donné, on a déménagé dans un autre immeuble, mais l'immeuble devait être rénové.
D'accord.
Donc, mon patron m'aidait à m'embarquer dans sa voiture, puis il m'amenait une fois de temps en temps pour m'assurer que tu sais, c'était vraiment un immeuble qui allait être viable pour des gens en situation de handicap. Donc, c'est un peu le l'ouverture d'esprit que les que la TD ou le groupe TD a, effectivement.
Parce que il y a presque 6% des employés de la TD à travers le Canada qui vivent en situation d'handicap. Alors, ça fait partie, je dirais, de la façon d'être de TD, là, d'essayer d'être accessible le plus possible. On est maintenant dans une ère de télétravail beaucoup. Est-ce que vous avez beaucoup de vos employés maintenant qui sont en télétravail, puis ça amène l'adaptation jusque dans le foyer des gens?
Ben, moi, bien personnellement, je trouve que c'est un gros avantage pour toute personne qui est en situation handicap, dont moi. Tu sais, je veux dire, on a aujourd'hui la journée parfaite
pour
comprendre que si j'avais dû me lever, attendre le transport adapté, me rendre au travail, revenir à la maison, ça aurait été une journée infernale.
Mm-hmm.
Puis là, ce matin, tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé, puis je suis allé dans mon bureau.
Exact.
Tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu rien. C'est comme si c'était... Donc ça, c'est un avantage, je trouve, en tout cas, pour la plupart des gens qui sont en situation de handicap, c'est un grand avantage. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, la pandémie va partir, mais je pense que ce modèle-là va rester.
Mm-hmm.
Puis, avec la technologie ou ce que la TD peut offrir en termes de soutien, bien, la personne, elle peut très bien avoir tout l'équipement possible et nécessaire à la maison. Là,
parce que différentes personnes ont des besoins différents en termes d'adaptation, puis il n'y a pas un kit adapté qu'on peut simplement envoyer chez les gens en disant ben, maintenant vous êtes bien équipé. Il faut voir à la situation de chacun. Ça peut être des problèmes de mobilité, ça peut être des problèmes de pour ce qui est de l'appréhension de la souris, le clavier, le type d'écran. Il y a toutes sortes de choses différentes. Et ce que vous me dites, c'est que la TD est capable de s'adapter. Ce que vous appelez un laboratoire, ça veut dire qu'ils cherchent à développer des aides qui sont personnalisées?
À peu près personnalisées, oui. Je vous dirais que je pense que depuis que ça existe, il y a eu 25 000 adaptations ou de demandes qui ont été faites à tout niveau. Là.
Mm-hmm.
Et ça peut être une demande d'une souris, ben là, c'est un plus une demande d'une autre souris, c'est deux. Fait que, ça a l'air gros comme ça, mais oui, effectivement, on va toucher dans le cas d'ici. Puis c'est du cas par cas. Je veux dire, c'est clair que, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de vue. Il y a des choses comme Jaws, comme Zoom Text. Ça existe déjà, c'est pas compliqué. Donc, si la personne est habituée à travailler avec ce genre d'application-là, ben on va tout simplement l'installer. Mais des fois, il faut être un peu plus créatif. Puis c'est du cas par cas. Donc, il y a des. On va sûrement faire de. C'est pas des gens qui travaillent pour la TD, mais on va faire appel à des spécialistes. À des ergothérapeutes qui vont évaluer puis qui vont trouver des façons, tu sais, je veux dire, uniques des fois pour rendre la personne capable de faire le travail qu'il a besoin, tu sais. Encore une fois, je vais vous donner mon exemple bien simple. Moi, je suis à la maison. Je me déplace en fauteuil roulant, mais je sais pas, j'aime ça, mais j'aime ça être par terre. Moi, j'aime ça être assis à terre.
OK.
Fait qu'à un moment donné, mes patrons, ils m'ont dit, ben là, t'as-tu besoin de quelque chose? Tu sais, on pense qu'on s'embarque pour un petit bout de temps pour travailler à la maison. Puis, à un moment donné, je me tanne d'être dans ma chaise. Tu sais.
Oui.
Fait que.
Ben, il faut que votre poste de travail soit à votre niveau si vous êtes sur le sol.
Exactement. Là. Fait que là, on a regardé ça avec un ergothérapeute à distance.
Mm-hmm.
Il n'y a pas eu de visite, il n'y a rien eu, mais on a déterminé qu'une petite table. Tu sais, je veux dire, qui bouge, où tu peux vraiment organiser la hauteur, mais vraiment une petite table. Il y a peut-être 30 cm de haut.
Après
l'être plus, on peut l'ajuster. J'ai mis mon laptop là-dessus, je suis droit, puis puis c'est super confortable.
Mm-hmm. Un genre de table qu'on va trouver dans un restaurant asiatique, là. Hein? quand les gens prennent le thé.
Oui, effectivement. Ou encore, tu sais, les vieilles tables qu'on avait quand on regardait la TV.
Oui, oui.
Puis qu'on mangeait devant la TV, les tables amovibles.
Oui.
Ça traduit mon âge un peu, mais...
Oh, bon. C'est correct. Ça traduit le mien parce que je sais de quoi vous parlez.
Mais c'est ça. Tu sais, je pense que de plus en plus, les personnes en situation d'handicap, quel qu'il soit, que ce soit l'ouïe, tu sais, je veux dire, verbalement, les yeux, problèmes de motricité, tout ça, il y a tellement d'avancements au niveau technologique, puis il y a tellement d'ouverture de la part de la TD, par exemple. Mais je suis certain qu'on n'est pas les seuls. Mais tu sais, il y a tellement une ouverture puis une concentration par rapport à ça que, tu sais, il y a de la place, puis des fois, il faut juste dire aux gens qui ont ces challenges-là, qui ont ces opportunités-là, des fois, ben, tu sais, donne-toi la chance, puis on va regarder concrètement qu'est-ce qu'on peut faire.
Est-ce que au sein de votre entreprise, la TD, ben, quand je dis la vôtre, celle où vous êtes, est-ce qu'il y a des incitatifs pour que les services continuent dans ce sens-là, pour que cette ouverture d'esprit-là soit maintenue?
Ah, bien sûr. Je pense que même de plus en plus, tu sais, je veux dire, il y a le mois de la personne en situation de handicap, il est au mois de novembre, mm-hmm. si je ne me trompe pas.
Oui.
Tu sais, je veux dire, au Québec, bon, elle est plus au printemps, mais il y a toujours des choses. Puis on essaie de garder ça. Je vais vous donner un exemple. En 2020, quand on a célébré le mois de la personne avec handicap, avec incapacité, j'aurais plutôt dit, pardon. Mm-hmm. À un moment donné, on a fait une table ronde avec des gens qui avaient, parce que des fois, c'est pas un parent un handicap, là.
Non, tout à fait.
Puis il y avait des gens qui avaient des problèmes d'anxiété. Mm-hmm. Il y avait des problèmes de tout ça. Donc, moi, qui a fait, à un moment donné, un petit burn-out, parce que, tu sais, je veux dire, donc, tu sais, c'est là-dedans, ben, on a sensibilisé des gens avec des gens concrètement qui ont vécu ces situations-là. Donc, tu sais, on essaie de transposer le plus possible, écoutez, tu sais, on a le défi sportif.
Ben oui, ça, c'est sûr.
Belle organisation.
J'entends en background, M. Beauregard, la musique t'aime. Malheureusement, ça va vouloir dire que je vous salue, je vous souhaite une belle journée, puis il n'y a rien comme un beau regard pour en comprendre un autre.
Absolument, puis à la revoyure, comme
merci.
On dit. Au revoir.
C'est Sans détour avec François Beauregard.
Janvier est le mois de sensibilisation au glaucome. Alors, dans ce cadre, nous allons entendre une entrevue au sujet de l'ABC du glaucome, si je peux dire, qu'on avons fait l'année dernière en avril avec Mme Carole Desharnais, infirmière au Centre d'information sur le glaucome de McGill de l'Hôpital juif de Montréal. Alors nous voici maintenant en compagnie de Mme Desharnais et nous parlerons de glaucome. Rebonjour, ici François Beauregard à Sans détour. Aujourd'hui, nous allons débuter une série où l'on va démystifier des maladies qui mènent à des pertes de vision. Et aujourd'hui, on commence par le glaucome. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Carole Desharnais, qui est infirmière ophtalmologique au Centre d'information sur le glaucome McGill de l'Hôpital juif de Montréal. Mme Desharnais, bonjour.
Oui, bonjour. Merci de l'invitation.
Ça nous fait plaisir parce que le glaucome, c'est beaucoup une question de dépistage. Ça fait pas mal. Puis si on n'y fait pas attention, ça s'installe. Puis ça peut nous voler la vue.
Oui, exactement. Donc, c'est vrai que ce que vous dites, effectivement, le glaucome, c'est une maladie chronique de mm-hmm. l'œil qui est caractérisée par une atteinte du nerf optique qui peut, si c'est pas traité, conduire à une perte du champ visuel, donc de la vue, et même à une cécité complète.
Alors, le nerf optique est attaqué parce que c'est la pression de l'œil qui augmente. Qu'est-ce qui, dans la physiologie de l'œil, qu'est-ce qui se passe pour que le nerf optique soit
Mise donc, à mal. C'est certain qu'il y a plusieurs facteurs. Mm-hmm. Ça, c'est un des facteurs qu'on connaît très bien. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à l'intérieur de l'œil, la pression augmente. Mm-hmm. Puis cette pression-là peut amener à une destruction des fibres du nerf optique. Puis, il faut penser que le nerf optique, ce qui arrive, c'est que sa mission à lui, c'est d'acheminer l'information au cerveau. Puis, le cerveau va interpréter, puis ça nous permet de voir.
D'accord. Il n'y a pas de, cause directe. C'est pas un virus. C'est pas quelque chose. On peut pas mettre le doigt sur ce qui cause le glaucome. Il peut y avoir des facteurs, mais on peut pas dire ah j'ai été en présence de personnes qui avaient le glaucome, donc maintenant je vais l'avoir. C'est pas aussi simple. Ça peut être l'âge. Ça peut être
oui, vous avez bien raison. Donc, c'est pas une maladie contagieuse, comme vous venez de le dire. Par contre, il y a toujours un facteur là, qui peut se transmettre d'une génération à l'autre. Et donc, l'âge est un facteur. Mm-hmm. En effet, les personnes qui sont âgées de plus de 40 ans, c'est à ce moment-là qu'on va généralement détecter le glaucome. Mm-hmm. Puis, ce glaucome-là, avec l'âge, il peut se développer et on peut avoir plus de risques de l'attraper ou d'être atteint, plutôt. Mm-hmm. Et la prévalence pour les personnes de 80 ans et plus est actuellement de 11 %.
D'accord. Et le moment où la personne spécialiste, l'infirmière ophtalmologique ou encore l'ophtalmologiste, la personne qui fait l'examen, peut constater qu'il y a un glaucome, à ce moment-là, l'individu, la personne, elle n'a pas commencé encore à perdre la vue.
Il faut comprendre qu'il peut y avoir des gens qui sont atteints de, pas nécessairement du glaucome, mais sont des suspects. C'est-à-dire que les pressions à l'intérieur de l'œil peuvent être élevées sans nécessairement avoir des atteintes de champ visuel ou du structure du nerf optique. Mm-hmm. Et pour avoir un glaucome, c'est détecté par les spécialistes de la vision, c'est pas nécessairement l'infirmière. Donc, en première ligne, on a les optométristes qui, eux, si jamais ils voient que les trois composantes sont là, donc des pressions trop élevées à l'intérieur de l'œil, ensuite des atteintes du nerf optique et finalement, une perte de champ de la vision au niveau de la périphérie, il va référer à un spécialiste de l'ophtalmologie, un ophtalmologue spécialiste en glaucome.
Et une fois qu'on a identifié que l'on a le glaucome, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le retarder? Est-ce qu'on se met des gouttes, des onguents, on change son alimentation? Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, c'est vrai que les gens ont tendance à vouloir trouver un remède, donc une petite pilule qui fait qu'on on guérit, là, comme un maux de tête. Oui. Mais si on veut parler de prévention du glaucome, on parle surtout des gens qui sont les suspects, là, ceux qui ont des pressions élevées. Donc, il faut faire examiner nos yeux régulièrement. D'accord. Car même si à 40 ans, on ne porte pas de lunettes ou on n'a pas de symptômes autres ou on a une très belle vision, ça ne veut pas dire que le glaucome ou les pressions ne sont pas élevées parce que c'est asymptomatique. Ah. Donc, faire vérifier nos yeux, c'est super important. Si jamais on a plusieurs facteurs de risque que je vais vous donner incessamment. Là, on parle ici de l'âge, la race, les problèmes vasculaires, les tumeurs dans le passé, l'hérédité, comme je l'ai déjà dit. Ben, c'est important de faire examiner nos yeux et comme ça, ils peuvent avoir un traitement en prévention donc qui va être fait, surtout si les gens qui ont des angles étroits ou fermés.
Donc, c'est pas juste savoir si j'ai besoin de changer le verre correcteur sur mes lunettes, là, on parle de mesurer la pression de l'œil, mais ça devient assez courant maintenant dans la procédure d'examen oculaire.
Donc, exactement, l'optométriste, lui, fait un dépistage et ils sont excellents à ce niveau-là. Et comme vous le disiez, une fois qu'on a le glaucome, ben on parle plus de prévention, sauf si on a eu un accident et que le glaucome est dû à un trauma. D'accord. Alors là, on peut prévenir en utilisant des lunettes protectrices, là, de se protéger les yeux quand on fait des activités sportives ou qu'on travaille dans le jardin, par exemple. Mm-hmm. Mais une fois que le glaucome est là, la seule chose qui peut nous aider à ralentir, c'est bien l'observance, la persistance à nos traitements. qui peut nous aider à conserver notre vision, aussi faire les suivis avec notre médecin, les tests qu'il demande.
Les traitements, ça va prendre quelle forme? Est-ce qu'il y a des médicaments, des gouttes? Est-ce que ça peut aller jusqu'à la chirurgie?
Donc, les tendances pour ces temps-ci, c'est il y a des lasers. Hein, quand on parle des angles étroits et fermés, donc il y a une possibilité d'ouvrir ce drainage-là. Comme vous le dites si bien, il y a aussi les gouttes. Il peut y avoir des onguents, les chirurgies, mais c'est pas parce qu'on commence avec des gouttes que nécessairement on va finir avec une chirurgie.
D'accord.
Si on est très observant et on suit bien nos traitements, on peut conserver notre vision très fonctionnelle jusqu'à la fin de nos jours.
D'accord. Ça peut nous permettre de garder la vision que l'on a et d'éviter qu'il y ait une détérioration. Mais là, évidemment, comme c'est comme toute chose, ça demande la discipline et la collaboration du patient ou de la patiente, là.
Hein, oui,
c'est pas le glaucome est la plus importante cause de cécité dans le monde.
Oui, c'est la deuxième cause de cécité au monde et la première cause de perte de vision irréversible. Il faut comprendre que cette maladie-là, c'est très complexe. Ce n'est pas juste une histoire de pression. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, le diagnostic précoce est souhaitable puis pour minimiser justement les pertes de vision. On l'a dit, les suivis de façon régulière et appliquer les gouttes. Mais malheureusement, il y a peu de mesures qui ont été prises jusqu'à présent pour prévenir la cécité par le glaucome à travers le monde. Il faut comprendre, les gens, étant donné que c'est asymptomatique, ils vont consulter tard. Les gens dans certaines parties du monde n'ont pas nécessairement accessibilité aux soins.
Non, il y a ça aussi.
C'est un autre facteur.
Donc, c'est possible que... Il y a beaucoup de gens pour qui ça passe littéralement sous le radar et puis... À la longue, leur vision se détériore. Puis là, à ce moment-là, c'est irréversible. Puis ils n'auront peut-être pas non plus accès à des gouttes, des onguents ou de la chirurgie. Alors, d'où la prévalence du glaucome, surtout dans des pays en voie de développement. Est-ce qu'il y a de la recherche qui se fait pour tenter de trouver des façons d'y arriver plus vite ou de renverser tout ça ou de dépister plus rapidement?
Donc, les recherches qu'on dénote ici, c'est surtout sur comment développer les techniques d'imagerie et de détection du glaucome, c'en est une. Il y a aussi les recherches se spécialisent sur les chirurgies moins invasives.
D'accord.
Donc, on parle ici de petits implants qui vont faciliter l'évacuation du liquide.
D'accord.
Puis ainsi, ils vont maintenir une pression adéquate pour l'œil. Puis aussi, on regarde aussi de diminuer les effets indésirables de certains médicaments tels que les sécheresses oculaires, les rougeurs et l'inflammation.
Bon, on espère que les gens vont aller rapidement prendre un rendez-vous pour leur examen oculaire annuel et qu'on pourra dépister rapidement le glaucome. Je vous remercie beaucoup, Mme Carole Desharnais, qui est infirmière au Centre d'information sur le glaucome McGill de l'Hôpital juif de Montréal. Merci. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée. Merci.
On était en 1941, Benny Goodman et son orchestre. Benny Goodman, qu'on surnommait The King of Swing. On vient d'entendre justement Clarinet à la King, comme le poulet à la cafétéria quand on était au collège. Voilà, donc Benny Goodman, ça nous donne un peu plus de pep, puis le goût de deliner de la tête ou de taper du pied. Par une journée comme aujourd'hui, on a toutes sortes de choses à faire à la maison. Voilà. On a, entre autres, cependant, le loisir de faire le tour du monde avec Mme Campagna, le tour du monde et le tour du quartier. Bonjour, Mme Campagna, comment allez-vous?
Bonjour, M. Beauregard, je vais très bien.
Ça va super, merci. Qu'est-ce qu'il y a de neuf aujourd'hui sur la planète?
Bien, enfin, on va commencer chez nous. Là. Mm-hmm. Je voudrais donner quelques nouvelles du milieu. Tout d'abord, Mme Denis a lu l'article en détail ce matin à son émission. Mm-hmm. Il y avait un article dans Le Devoir ce matin, ainsi qu'une lettre d'opinion publiée sur leur site web, qui est une lettre signée par plusieurs organismes du milieu du handicap un peu mm-hmm. partout au Québec, qui demande l'accès aux tests PCR pour les personnes en situation de handicap, parce que les tests rapides ne sont pas accessibles pour toutes sortes de raisons. Il mm-hmm. faut d'abord aller se les procurer.
Il faut les manipuler.
Si on a un handicap moteur ou du corps, si mm-hmm. on a un handicap visuel, donc ils ne sont pas accessibles pour toutes ces raisons. Et parce que, bon, ce qu'on suggère aux personnes qui soupçonnent d'avoir une COVID et qui ne peuvent pas se tester, c'est de s'isoler, mais c'est pas si simple que ça pour les personnes en situation de handicap. Et qui veulent offrir la sécurité à leurs proches aidants, employés, bénévoles. Une personne qui n'est pas 100% autonome à cause de son handicap ne peut tout simplement pas dire « Ah ben, je vais m'isoler tout seul pendant 10 jours. »
C'est pas si facile. Puis ça se peut aussi que ce soit pas la COVID et que l'isolement ne soit pas aussi nécessaire.
Ben c'est ça. Et on souligne dans les deux textes que c'est vraiment pas le premier enjeu où le gouvernement oublie les personnes handicapées depuis le début de la pandémie.
Oh, oui, il y a Clic Santé, on va commencer par là.
Ben, c'est plus cet oubli est plus la règle que l'exception. Oui. Là. C'est un peu comme à croire que le gouvernement du Québec pense que toutes les personnes handicapées vivent en institution ou sont 100% autonomes.
Oui, exact. Mais il n'y a pas rien entre les deux. Là.
C'est ça.
Bien, on peut être autonome dans une grande partie de nos activités dans la vie, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de manier les deux petites éprouvettes là, du test rapide, ainsi de suite. Et, après ça, il y a toutes sortes d'autres choses. Et le test PCR est plus probant, à ce que je sache. Et bien, ça demande l'intervention de quelqu'un qui nous admet à sa clinique de dépistage.
J'ai aussi vu passer un lien vers un question-réponse sur le site du regroupement des usagers du transport adapté de Montréal. Mm-hmm. Puis je trouvais intéressant de revenir sur certaines choses. Tout d'abord, le port du masque. Il est obligatoire dans les véhicules de transport adapté, mais il y a des exceptions en fonction du handicap. Mm-hmm. Si vous êtes concerné par ces exceptions-là, il faut contacter la STM pour que ce soit mis à votre dossier. Ça se peut que dans certains cas, certaines preuves ou certificats soient demandés, mais c'est très important parce que ça a un lien avec une autre mesure, c'est qu'on a recommencé à mettre seulement 2 personnes par véhicule mm-hmm. depuis le 18 décembre dernier. Mais dans le cas d'une personne qui, à cause de son handicap, ne peut pas porter le masque, cette personne-là ne sera pas jumelée du tout
non. Voilà.
avec quelqu'un d'autre. J'ai par contre vu des informations, j'imagine, bon, c'est un document qui est mis à jour à mesure, il y a une petite contradiction.
Ah tiens, c'est bien la première fois.
On dit que les chauffeurs sont tenus de porter le masque en tout temps, même s'il y a un plexiglas ou un rideau de vinyle dans le véhicule. Mm-hmm. Et à un autre endroit dans le document, on dit que ce n'est pas obligé une fois qu'il est derrière son plexiglas.
D'accord.
Et pour les personnes qui se demanderaient, là, oui, les chauffeurs sont quand même tenus d'aider, que ce soit à cause d'un handicap moteur ou d'un handicap visuel, de guider la personne jusqu'au bon endroit. Là. Mm-hmm. Les chauffeurs continuent d'être dans l'obligation d'apporter une aide lorsque nécessaire.
Oui.
Et aussi, on rappelle qu'ils sont encouragés à nettoyer le plus souvent possible là, les équipements qui sont fréquemment utilisés. Mm-hmm. Et que dans le cas des chauffeurs du transport adapté comme tel, de l'équipement et des produits leur sont fournis et il y a des coûts de remboursé pour les chauffeurs
D'accord.
de taxi, notamment pour le lavage à l'auto à sec, là, un lavage mm-hmm. spécial. Là. Donc, renseignez-vous, assurez-vous que votre chauffeur a fait tout ça.
Tout son travail pour que ce soit une auto spick and span, dirait-on.
Exactement.
Une auto ou une camionnette spick and span, voilà.
Ensuite, maintenant, on s'en va en France.
Ah, bon.
Alors, il y a une compagnie qui s'appelle... Non, une application qui s'appelle TIA.
TIA?
Qui aide les personnes qui ont un handicap visuel à lire avec leur appareil intelligent, en scannant, d'obtenir toutes les informations essentielles pour gérer des traitements par médicaments.
Mm-hmm.
C'est une application qui a été conçue en collaboration avec l'association Valentin Ahuy.
Ça s'appelle TIA. T comme Thomas, I
comme... T-H-E-I-A.
Oui. Ah, T-H-E-I-A. OK.
Voilà. Le besoin est venu du fait que, oui, en effet, il y a des informations en braille qui figurent sur des boîtes, mais ces informations-là, tout d'abord, sont incomplètes.
Mm-hmm.
Elles se limitent au nom et au dosage du traitement.
Mais ça ne parle pas des effets secondaires possibles ou des
voilà.
contre-indications?
Seuls 12 % des Français qui ont une déficience visuelle maîtrisent le braille. Donc, déjà là, ça excluait beaucoup de gens. Mm-hmm. Alors, l'entreprise, elle s'appelle Sanofi. Elle a lancé cette application en décembre dernier. C'est disponible sur le iStore pour l'instant, pour les gens qui ont un iPhone, et ça le sera d'ici peu sur le Play Store pour les appareils Android. Mm-hmm. Donc, c'est une synthèse vocale qui vous lit les informations. Manuel Pereira, qui est de l'association Valentin Ahuy et qui est responsable du pôle accessibilité numérique, a participé à la conception et au test de l'application. Il explique que les équipes ont travaillé en partant des suggestions des membres de l'association en la rendant, bon, premièrement, il fallait que l'application elle-même soit accessible.
Oui, d'abord.
Ensuite, bon, il fallait qu'elle puisse scanner de manière performante les codes barres, les data matrix, là, qui sont des codes d'identification des médicaments. Alors, elle permet d'accéder au nom du médicament, à son dosage, mais aussi à sa date de péremption.
Ah oui.
Et ça mène vers un site web français qui s'appelle Vidal, où il y a des renseignements plus élaborés sur les différents médicaments, justement, la posologie, des effets indésirables. Et on y trouve déjà 13 000 références, donc c'est vraiment une avancée dans l'autonomie, encore une fois.
Oui. Ben, il n'y a pas juste des personnes qui ont un handicap visuel et qui sont, je dirais, identifiées comme telles, mais il y a aussi toutes les personnes qui ont une vue presque normale. Les caractères sur les petits flacons de médicaments sont tellement petits. Ça en est ridicule. Il faut des loupes, il faut regarder. Et je pense qu'il y a bien des gens qui, par habitude, vont prendre les mêmes médicaments, puis parfois peuvent faire des erreurs. Parce qu'ils ont. C'est décourageant à lire les notices qui accompagnent les médicaments. Là. En fait, on dirait qu'ils se surpassent pour que ce soit écrit en un point ou en deux points de caractère. Là. C'est ridicule. Puis comme il y a une obligation de bilinguisme, il y a encore moins de place.
Oui, bien là, on parlait de la France ici, mais en effet, ici, c'est un enjeu. Et il y a un paradoxe là-dedans, parce qu'en effet, la moindre, je dirais, prise BC de base, là,
oui.
nuit à la lecture de tout ces renseignements-là, alors que, généralement, en vieillissant, on se trouve souvent à consommer davantage.
De médicaments.
De médicaments
tout à fait.
Auparavant.
c'est tout à fait juste, là, et... C'est fou. J'ai même, en fait, une fois, j'étais en compagnie d'une jeune pharmacienne, là, qui devait pas avoir beaucoup plus que fin vingtaine, début trentaine, puis elle-même, là, avait besoin d'une loupe pour regarder un flacon de trucs pour le rhume, pour me donner les renseignements que je lui demandais. Voilà.
Maintenant, on s'en va du côté des États-Unis.
Mm-hmm.
Où un sujet qui revient souvent, la représentation dans les fictions.
Ah oui.
Alors, il y a une étudiante aveugle qui a décroché le premier rôle d'une série produite par Netflix. Elle s'appelle Mia Loberti. La série s'appelle All the Light We Cannot See.
Mm-hmm.
Il s'agit de l'adaptation d'un roman à succès qui est fait directement par Netflix. Et ils ont confié ce rôle à cette fille-là, même si elle était dépourvue de formation cinématographique. C'est une étudiante, une doctorante, en fait, en rhétorique à la Penn State University. Et elle dit que c'est un mélange d'excitation et de stress, là, qui elle-même, là, elle milite depuis longtemps pour une meilleure visibilité des personnes ayant une déficience visuelle. Ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y aura aucun risque que l'actrice fasse une erreur dans son jeu qui montre qu'elle n'est pas aveugle.
Voilà.
Ce qu'elle dit avoir remarqué à de nombreuses reprises.
Oui, tout à fait. Mais La série est basée sur un livre, je pense, qui est une autobiographie.
Oui, oui. Et en fait, ce commentaire-là n'était pas de l'actrice, il était de Lauren Applebaum, qui est vice-présidente de Respectability et auteur d'un guide qui s'appelle « The Hollywood Disability Inclusion Toolkit ». Et je fais une petite parenthèse à ce sujet-là. Il y a une nouvelle série à Radio-Canada qui s'appelle « Ce rendez-vous ».
Oui, 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 tout à fait. C'est une sorte de comédie, je dirais, de situation.
Hein? Voilà. Et il y a un personnage joué par une comédienne qui n'est pas en situation de handicap, et le personnage est paraplégique.
Mm-hmm.
Et cette semaine, deux des personnages faisaient du karaoké dans leur salon, là, chantaient avec bonheur et agrément. Et moi, j'ai tout de suite remarqué sa façon de bouger.
Oui.
Une personne paraplégique n'aurait jamais pu bouger de cette façon-là.
OK.
Dans son fauteuil. C'était vraiment... c'était impossible.
Elle avait l'air de quelqu'un qui n'est pas paraplégique assise dans un fauteuil.
Oui, absolument.
Mm-hmm.
Tout à fait. Et pour revenir à Hollywood, 95% des rôles des personnages handicapés sont tenus par des acteurs sans handicap.
Oui.
Et c'est souvent aussi, évidemment, on y revient tout le temps, le rôle est souvent stéréotypé, loin de la réalité.
Vous savez combien, Mme Campagna, ce sujet mérite l'idée que des personnes qui ne vivent pas une situation d'handicap jouent, entre guillemets, la comédie, alors qu'il y a plein de gens talentueux, talentueuses, qui vivent des situations d'handicap qui pourraient tout à fait être capables d'exprimer les sentiments du personnage tout en ayant un aspect de véracité. Là. Il y a beaucoup d'occasions qui se perdent. Ça, évidemment, les scénarisations où la seule fonction de la personne vivant en situation d'handicap, c'est d'avoir un handicap. Mais là, je suis en train de faire péter ma coche, je ne le ferai pas.
Je sais que, par exemple, dans la série 6 degrés, ils ont essayé de trouver un acteur, ils n'en ont pas trouvé. Par contre, ils ont pas essayé de deviner comment ça se passerait.
Exact.
Ils ont fait leur recherche.
Mm-hmm.
Ils avaient un consultant. Autrement dit, le personnage, l'auteur Simon Boulris a un ami qui a un handicap visuel. Cette personne-là n'est pas acteur, il n'était pas en mesure de jouer lui non plus, mais c'est lui qui a guidé l'acteur tout au long. Ça joue aussi, si jamais on peut pas trouver un acteur pour jouer le rôle, il faut au moins que dans le processus, ça se peut pas que toute une équipe de l'auteur à la réalisation, aux accessoires, tout ça, que personne là-dedans ne consulte des personnes qui ont vraiment ce handicap.
Exact.
Donc, au moins, l'effort avait été fait, l'effort de réalisme.
Oui, tout à fait. Ben, c'est au moins ça, c'est une consultation en amont, là, qui est une chose qui nous semble indispensable.
Voilà, tout à fait. On cite, l'article revient, c'est un article de handicap.fr là, qui réfère à d'autres articles du passé sur d'autres exemples qui avaient été intéressants et dont un qui revient à ce que je racontais, c'est que il y a un film qui s'appelait, attendez, c'est un blockbuster américain qui s'appelait Sans un bruit dans son titre français, qui était réalisé par John Krasinski. Et il avait embauché une actrice sourde pour jouer le rôle. Elle s'appelle Millicent Simmonds. Et pour lui, c'était une évidence. Il dit « Je voulais pas d'une actrice entendante faisant la sourde. » Il dit, en plus, justement, elle a été plus qu'une actrice. Elle lui a permis de s'immiscer dans cet univers, de peaufiner son intrigue et chacun des personnages. Et ça a aussi eu pour résultat que sur le tournage, bon, l'actrice avait une interprète en langue des signes. Et petit à petit... Ben, en coulisses, tout le monde s'est mis à apprendre et progressivement à signer pour communiquer avec elle.
Ah. Ben ça,
donc,
c'est...
ça dépasse la question de qui joue le rôle.
Exact.
C'est de bien dépeindre son univers.
Tout à fait. Là, vous avez l'intention de nous révéler un de vos secrets et de diffuser votre liste hebdomadaire de trouvailles.
Mais en fait, je le fais déjà. Je voulais juste inviter les gens qui s'intéressent, là, les nouvelles que je raconte comme ça en fin d'émission, à s'inscrire. Vous allez sur le site de Canal M, qui est au canalm.vusezvoix.com. Je fais la liaison pour bien montrer qu'il y a un S à vue. Et vous allez voir dans la colonne à gauche, il y a Revue de presse handicap et inclusion. Vous pouvez la lire là. Et vous avez aussi là le lien pour
vous abonner.
Pour vous abonner, pour la recevoir dans votre boîte de courriel. Je donne ce que je trouve, moi.
Bien, je vous remercie, Mme Campagna, mais ça va nous faire plaisir de vous écouter chaque semaine, comme lundi prochain. Merci, Mme Campagna. Merci, Nicolas Swartman. À la régie. À la semaine prochaine.